Les parts actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, ici Clotilde Seille au micro. Voici aujourd'hui pour les titres « Conduire malgré un handicap visuel ». Madame Renée Dupuis, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, nous a autorisé à avoir une entrevue avec elle. Ce sera dans quelques minutes. Nous irons aussi beaucoup à Laval. Accès pour tous au bois de l'équerre, services gratuits pour des proches aidants et des personnes en perte de mobilité dans les bibliothèques de Laval, justement. Et puis, c'est la directrice d'une association lavalloise que nous recevons aujourd'hui, c'est Mara Audet Leblanc, qui est directrice de ALTA. ALTA, c'est l'association lavalloise pour le transport adapté. Également aujourd'hui, apprendre le langage des signes au restaurant avec des serveurs sourds. Alors, conduire malgré un handicap visuel. Les personnes atteintes d'une légère déficience visuelle peuvent désormais se qualifier pour obtenir un permis de conduire grâce à une formation offerte depuis l'an dernier. Pour augmenter l'acuité visuelle, les élèves apprennent à conduire à l'aide d'un télescope optique installé sur leurs lunettes ajustées. Cet outil améliore jusqu'à 3 fois la vision sur de longues distances. Les gens qui ont accès au programme ne sont pas des personnes aveugles, mais plutôt des gens qui voient moins loin que la moyenne, précise Andréane Lavoie, spécialiste du programme de déficience visuelle du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, autrement dit le CIUS, de la capitale nationale. Ce sont de meilleurs conducteurs que 95% de la population. Ils sont tellement entraînés et évalués régulièrement qu'ils ont tellement de stratégies pour être préventifs, de dire Andréane Lavoie, spécialiste de ce programme de déficience visuelle du CIUS de la capitale nationale. Patrick Loutier est l'un de ceux qui bénéficient de ce programme en raison d'une malformation de la rétine. Sa condition l'empêchait auparavant de se qualifier pour le permis de conducteur régulier. Pour se déplacer, c'est beaucoup d'organisation et de logistique dans une ville comme Québec. Ce n'est pas la ville la mieux organisée pour le transport collectif. Offerte à Québec et à Montréal, cette nouvelle formation est 5 fois plus longue que celle exigée pour la population générale, soit 200 heures étalées sur 15 mois. La formation a vu le jour après un projet pilote lancé en 2001. Le programme a finalement reçu l'aval du gouvernement l'an dernier. Quelques 140 000 personnes vivent avec une déficience visuelle au Québec. On estime toutefois que seule une petite proportion d'entre eux pourra se qualifier pour cette formation. Également aujourd'hui, un policier impatient colle un F, point de suspension de ticket, à un homme handicapé. Il a été averti de ne plus utiliser un langage grossier par son patron après qu'une vidéo devenue virale lui montrait en train d'agir de façon agressive envers un homme en fauteuil roulant. Ça s'est passé sur le coin de Sherbrooke et de McGill. À ce moment-là, il y avait un collègue et lui qui était affecté à la circulation des piétons et des véhicules en raison des travaux routiers menés à proximité. Tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux maintenant simplement parce que tu es dans un fauteuil roulant, c'est ça? Ben, je vais te donner un F, point de suspension, ticket, tu l'as cherché, dit le policier à l'homme en anglais dans la vidéo. Selon le message publié sur Facebook par Kate Albici, qui a filmé la scène, l'homme en fauteuil roulant traversait la rue lorsque le feu de signalisation serait passé au rouge, l'obligeant soit à poursuivre son chemin ou à revenir sur ses pas. Toujours d'après cette dernière, l'agent Lheureux aurait alors confronté l'homme qui se trouvait au milieu de l'intersection et l'aurait même bousculé après que l'homme lui eût demandé d'arrêter. Cette madame d'ailleurs dit aussi s'être sentie menacée par cet agent. De son côté, le commandant Danick Guerrero a tout de même tenu à défendre son policier, expliquant que la vidéo virale manquait de contexte avant et après. Un peu plus de 24 heures après sa diffusion, la vidéo avait déjà été relayée à plus de 8000 reprises. Les internautes ne se sont d'ailleurs pas fait prier pour décrier l'attitude du policier ciblé. Pour le policier à la retraite François Doré, même s'il manque du contexte à l'échange entre le policier et l'homme, les jurons n'ont pas la place dans la bouche d'un agent. « C'est l'entrevue du jour et je sais qu'elle est déjà au bout du fil. Elle s'appelle Madame Renée Dupuis. Elle est vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Bonjour Madame Dupuis.
Bonjour Madame Sey.
Alors je suis ravie de pouvoir vous parler aujourd'hui au lendemain de ce bilan 2015-2016 de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Qui a été présenté au sein d'un rapport d'activité et de gestion à l'Assemblée nationale le 20 septembre dernier. C'est bien ça?
C'est exact, oui.
Alors, avant qu'on se penche sur ce rapport-là, quelles sont, Madame Renée Dupuis, quelles sont les ressources dont dispose la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse?
La Commission a un budget annuel de 15 millions de dollars, sur lesquels, dans la dernière année, donc dans l'année qui s'est terminée en mars 2016, donc en mars dernier, 14,5 millions ont été dépensés.
Oui.
Et le nombre de personnes qui y travaillent, actuellement, c'est le chiffre est de 131 personnes, dont j'ajouterais 9 personnes qui ont un handicap, c'est-à-dire 7% du personnel.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce rapport d'activité 2015-2016 tel qu'il a été présenté à l'Assemblée nationale?
En fait, on retrouve toutes sortes de choses, si vous me permettez. C'est-à-dire que c'est une façon pour la Commission de rendre des comptes sur ses activités, compte tenu des ressources qu'on lui alloue, donc, pour faire son travail.
D'accord.
Qui porte sur la discrimination. Donc, on retrouve des données sur les ressources humaines, financières. On retrouve aussi des données sur les activités. Par exemple, je vous donne des exemples concrets.
Oui.
Le nombre de plaintes qui ont été déposées dans l'année dernière et qui ont été reçues, qui ont été jugées recevables, c'est 787.
Oui.
Dans ces plaintes-là, il y a un certain nombre de plaintes qui sont fondées sur le handicap, c'est-à-dire des personnes qui ont handicap, qui ont déposé une plainte et qui ont été considérées donc valides comme plainte. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce qui est important de le constater, c'est que 40 % des nouveaux dossiers de plaintes, et ça correspond à l'ensemble des dossiers, 40 % de ces dossiers-là de plaintes à la commission portent sur un motif handicap.
Ah oui.
Ou bien, oui, c'est énorme.
C'est énorme.
C'est le plus grand nombre de plaintes qu'on reçoit.
Est-ce que ça augmente à tous les ans? Ou...
Écoutez, ça n'augmente pas nécessairement tous les ans, mais ce que l'on observe avec préoccupation de notre part, c'est que on persiste à recevoir un très grand nombre de plaintes fondées sur le handicap ou le moyen de pallier un handicap, par exemple un chien d'assistance qui n'est pas accepté dans un logement ou des choses comme ça.
Mm-hmm.
Le deuxième motif le plus important de plainte à la commission, c'est la race. C'est 21%. Donc, on voit bien que c'est tout de même inférieur au motif handicap. Et ce qu'on réalise, c'est qu'à l'intérieur de ces plaintes-là, qui sont fondées sur le handicap, il y en a 36% qui portent sur le secteur de l'emploi. C'est-à-dire, vous êtes en emploi, soit que vous essayez d'y arriver, ou soit qu'on vous congédie parce que vous avez un handicap qui se révèle à un moment donné.
Mmh. Et qu'est-ce que peut faire l'Assemblée nationale? Quel est son rôle maintenant? Elle va évaluer ce rapport, mais qu'est-ce qu'il va en découler?
En fait, l'Assemblée nationale reçoit le rapport.
Oui.
Et ça, comment dire, donc, un rapport annuel, c'est très important parce que c'est à la fois un instrument de vérification de est-ce que la commission fait le travail qu'on lui demande de faire, mais ça sert aussi de document de recherche pour les législateurs en général, c'est-à-dire que tous les députés, peu importe à quel parti ils appartiennent, vont trouver dans le rapport annuel des informations sur les recherches que la commission fait, mais sur l'évolution aussi de la question de la discrimination. Par exemple, dans le cadre de cette année-là, qui s'est finie en mars 2016, on a fait faire un sondage qui a révélé un certain nombre de choses sur la perception que les Québécois ont de la charte et est-ce qu'ils acceptent le fait que tout le monde est censé être égal, puisque c'est ça le fondement de la charte, c'est-à-dire que vous ne devez pas discriminer à l'endroit des gens, sinon les gens ont un recours possible pour faire respecter leur droit à l'égalité. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une bonne majorité des Québécois qui comprennent et qui acceptent en général cette question-là. Par ailleurs, ce sondage-là nous a révélé, c'est qu'il y a un nombre quand même non négligeable de Québécois qui considèrent que les femmes n'ont pas nécessairement les mêmes droits que les hommes. Ce qui est un problème pour la Commission des droits de la personne, vous le comprenez.
Mais bien sûr, mais c'est fou en 2016.
Et on a aussi, dans ce sondage, obtenu des réponses qui sont préoccupantes sur la perception négative d'un nombre très important de Québécois à l'endroit des personnes qui reçoivent de l'aide sociale. Alors, dans le contexte de la discussion actuelle à laquelle la Commission a pris part sur le projet de loi 70, qui veut obliger la participation à un programme d'insertion en emploi pour, si vous voulez, recevoir de l'aide sociale, ben, c'est très préoccupant pour la Commission.
Ben oui, je comprends.
Donc, c'est une source d'information importante.
Oui, effectivement. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles au milieu de tout cela? Est-ce qu'il y a des choses dont on peut se réjouir?
Ben,
des victoires.
Il y a des histoires qui sont encourageantes, mais il y a des histoires qui sont encourageantes. Vous savez, la question du plus grand nombre de plaintes portées par des personnes qui ont un handicap, ça peut aussi être une indication que les personnes qui ont un handicap sont déterminées à faire avancer la question et à faire avancer la situation qui est la leur. On pense à l'accès dans les commerces de proximité. La Commission avait fait un travail important pour sensibiliser des grandes chaînes de commerces de proximité, c'est-à-dire des commerces d'alimentation ou des pharmacies. Et on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de résistance au changement dans ces milieux-là. Donc, les gens ont l'air d'être conscients de leurs droits, et ça, c'est une excellente nouvelle.
Oui.
Et je pense qu'il y a des gens aussi qui semblent très déterminés à faire valoir leurs droits. Et c'est pour ça, il y a des bonnes nouvelles aussi, je vous le dirais, dans la mesure où je pense que les gens commencent à comprendre 40 ans après l'adoption de la charte.
Ça fait exactement 40 ans.
Ça fait exactement 40 ans et on a voulu le souligner d'une façon particulière en donnant le prix des droits et libertés à 40 personnes au lieu d'à une seule personne. Parce qu'on a trouvé que c'était important de faire connaître mieux l'action de gens qui sont sur le terrain. Qui aident des personnes qui ont handicap, qui aident des personnes racisées. Et donc, on a souhaité et on a fait rayonner le travail de ces personnes-là parce que la Commission ne peut pas faire le travail toute seule.
Non, c'est sûr.
La Commission s'appuie aussi sur le travail de gens qui sont sur le terrain, qui connaissent ces problèmes-là et qui nous aident à essayer avancer la question des droits à l'égalité.
Et Mme Dupuis, vous pouvez compter aussi sur le support et l'appui de Canal M, parce que nous sommes là justement pour faire parler tous ces organismes-là et toutes ces personnes qui luttent. Vraiment.
Et c'est la raison pour laquelle on accepte volontiers de vous aider à faire votre travail. Non, mais c'est très important.
Oui, c'est important.
Il faut aussi qu'on envoie le message, et c'est ça qu'on a décidé d'axer notre action là, de 2015-2019. Notre planification stratégique, elle est vraiment axée sur les groupes qui sont dans le milieu, que ce soit des médias, que ce soit des organismes communautaires, des groupes qui sont sur le terrain, pour qu'il y ait une espèce de nébuleuse d'énergie qui fasse en sorte qu'on fasse avancer la question des droits.
Oui. Tout ça est une chaîne et tous les maillons sont importants.
J'en suis convaincue.
Madame Dupuis, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, c'était très passionnant de vous entendre. J'espère que nous vous entendrons à nouveau sur les ondes de Canal M dans les semaines ou les mois à venir, d'accord?
Je le souhaite, moi aussi.
Merci, Madame Dupuis. Bonne journée.
Au revoir.
Alors, on continue en région. On va beaucoup aller du côté de Laval aujourd'hui, où tous les citoyens, sans exception, notamment, ont maintenant accès au bois de l'Équerre. Le maire de Laval, M. Marc Demers, et la conseillère du district de Sainte-Rose, qui s'appelle Virginie Dufour, ont assisté hier matin à l'inauguration d'un sentier forestier adapté aux personnes à mobilité réduite au cœur du bois de l'Équerre. Ce boisé, a déclaré le maire de Mers, est un lieu exceptionnel et tous les citoyens pourront maintenant en profiter. J'ai soutenu ce projet dès le début et je l'ai priorisé parmi les investissements municipaux dans Sainte-Rose. Je suis donc heureuse de voir le sentier ouvert aujourd'hui et de savoir que tous mes concitoyens pourront profiter de ce magnifique lieu sans égard à leur âge ou à leurs conditions physiques, a ajouté Madame Dufour. La réalisation de ce sentier de 1,3 km a été rendue possible grâce à la contribution de la ville de Laval et de la fondation Alcoa qui y ont investi respectivement 70 000 et 40 000 dollars. Nous sommes à Laval, restons-y, tiens. Depuis 6 mois, les bibliothèques de Laval proposent différents services gratuits répondant aux besoins d'information des proches aidants et d'aînés en perte de mobilité. On a beaucoup d'outils en ligne permettant l'accès à une série de documents, livres, films et revues utiles pour les gens qui s'occupent d'un proche, d'affirmer Catherine Lorrain, bibliothécaire à la ville de Laval. Ces personnes sont de plus en plus nombreuses et les bibliothèques sont bien placées pour leur apporter du support. Des bibliographies sont disponibles sur www.biblioaidant en un seul mot avec un S à aidant, biblio au singulier aidant, tout ça en un seul mot avec un S à aidant.ca, répartis en 15 cahiers thématiques sous forme de trousses d'informations. Aînés et vieillissement, cancer, déficience intellectuelle, deuil, diabète, incapacité physique, maladie d'Alzheimer, de Parkinson, pulmonaire, du cœur ou accidents vasculaires cérébraux, santé mentale, sclérose en plaques, soins palliatifs, proches aidants et troubles du spectre de l'autisme. Les gens peuvent réserver le document en ligne ou n'ont qu'à se présenter au comptoir et poser leurs questions au personnel, d'ajouter Madame Lorrain. Nous avons ce qu'il faut sur une vaste gamme de problématiques de santé touchant les aînés et les proches aidants. Le concept a débuté à Repentigny et depuis, ce sont 500 bibliothèques publiques québécoises qui offrent ces services. Par ce moyen, les citoyens peuvent aussi se renseigner sur les ressources disponibles en lien avec les sujets auxquels ils sont confrontés. Alors, on peut s'inscrire, c'est facile, sur www.bibliothèque au pluriel, .laval.ca ou encore en appelant votre bibliothèque de quartier, que ce soit à Laval ou ailleurs, puisqu'il y a 500 bibliothèques qui sont concernées. Peut-être même que la vôtre en fait partie de ces 500-là et que vous ne le saviez pas encore. Alors, vous savez qu'ici, à l'émission, on fait souvent la place à des organismes. En fait, je dis souvent, mais c'est tous les jours. Et aujourd'hui, je suis au bout du fil avec Mara Audet-Leblanc, directrice de l'association lavalloise pour le transport adapté. Voyez-vous, on est encore à Laval et c'est vraiment du pur hasard. Autrement dit, ALTA. Bonjour, Madame Audet-Leblanc, Mara.
Bonjour, Madame Desseil.
Ça va bien?
On accroche les noms aujourd'hui.
Oui, exactement. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, j'aime ça tout d'un coup qu'on m'anoblisse comme ça.
Ah, c'est bien.
Mais ce n'est pas le cas. Je ne suis qu'une simple et modeste seille. Madame Audet-Leblanc, j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu l'ALTA. Quelle est la mission de l'ALTA, l'Association lavalloise pour le transport adapté?
Oui, bien notre mission principale, c'est sûr, nous sommes un organisme de défense de droits. Donc, c'est de défendre les droits des usagers du transport adapté, donc à Laval, bien entendu, pour améliorer leurs conditions de vie et la situation du transport des personnes handicapées et à mobilité réduite. Dans le fond, c'est pour rendre ce service essentiel à l'intégration sociale. On s'entend bien que pour eux, c'est essentiel. Là.
On le sait, c'est ça exactement.
Donc, depuis quelques années, on s'implique sur plusieurs dossiers également concernant l'accessibilité universelle, donc dont le transport régulier accessible à Laval, qui est devenu, depuis quelques années maintenant, actuellement, la STL a 6 lignes accessibles. Donc, on s'occupe également de ce sujet.
Mais c'est ça, parce que quelle est la différence, je pense que c'est important de bien la faire, entre la STL et ALTA?
Oui, dans le fond, on doit toujours le répéter. Donc, l'ALTA, on est un organisme de défense de droits.
Okay.
Donc, on est l'intermédiaire entre la population, les usagers du transport adapté et lui qui donne le service. Donc, la STL et la Société de transport de Laval qui donne le service aux gens.
D'accord.
Donc, nous, on est vraiment, on leur donne le soutien à l'admission dans toutes les étapes pour ceux qui ont besoin du transport adapté. Donc, dans toutes les étapes qui peuvent être parfois ardues pour les gens nécessitants.
Bien sûr. Mais alors, quel type de service vous offrez à vos usagers?
Oui, mais donc, comme je viens de le mentionner, on donne un soutien très complet aux demandes d'admission au transport adapté, autant dans le remplir le formulaire que contacter le médecin pour avoir le diagnostic médical qui est requis au préalable. Donc, les gens n'ont pas besoin d'aller voir leur médecin ou de téléphoner. On le fait nous-mêmes à l'interne. Par la suite, lorsqu'on reçoit le diagnostic, On a également un service d'ergothérapie, qui c'est une évaluation qui est nécessaire à l'admission au transport adapté.
Wow.
Donc, on a notre ergothérapeute qui fait une évaluation à moindre frais. Donc, c'est sûr qu'au CLSC, ils peuvent avoir cette évaluation de façon gratuite, mais actuellement, les services de santé, comme on le connaît, il y a énormément d'attentes. Donc, quelqu'un qui aurait besoin d'une évaluation aujourd'hui, je pense que c'est rendu à 10 mois d'attente pour avoir une ergothérapeute, oui. Donc, et au privé, qui peut être très rapide, c'est un des frais qui sont très exorbitants. Donc, nous, on a quand même la possibilité de l'avoir à moindre coût. Donc,
Ouf! Oui. Dites-moi, Madame Audet Leblanc, sur une échelle de 1 à 10, quel est le degré de difficulté pour se déplacer à Laval lorsqu'on est une personne avec des limitations?
Oh, mon Dieu, je pense que ça varie énormément de qui. Hein? Il y a des gens qui sont un peu plus... aventureux.
Oui.
Parce qu'on peut, comme on s'en rend pas compte, les gens qui n'ont aucune difficulté, mais à Laval, il n'y a ou pas de trottoir ou très peu. Ah. Donc, déjà là, pour se déplacer sur les rues, les gens doivent parfois être dans la rue. Donc, ce qui peut être très dangereux déjà là.
Oui.
La présence ou non d'un bateau pavé qui est la descente d'accès à la rue, parfois, est inexistant. Donc, c'est vraiment des difficultés que c'est quotidien pour ces personnes. Je pourrais même parler de l'accessibilité dans tous les services, dans les lieux de restaurants. C'est quotidien.
Oui.
Et la centralisation des services, c'est un autre problème. On sait qu'à Laval, il y a énormément d'autobus et tout ça, mais c'est très central.
Mm-hmm.
Si on peut aller un peu plus loin à l'extérieur, c'est très difficile. Ouais. Et même les lignes accessibles qui existent aujourd'hui sont centralisées également. Donc, ça devient un autre problème.
Bien sûr.
Et tous ces problèmes-là sont existants l'été, mais on peut comprendre très bien que
l'hiver, ça doit être terrible.
Ça décuple tout ça. Là. Ces problèmes, ces difficultés deviennent un handicap supplémentaire.
Absolument.
À leurs limitations. Donc, ça brime leurs droits de personnes, de participation sociale. C'est pour ça qu'on existe, c'est pour
ben
ça qu'on
oui,
est là.
Exactement, Madame Audet Leblanc. Je voudrais juste que vous me disiez, pour finir, j'imagine que utiliser Alta, c'est facile d'utilisation?
Oui, dans le fond, c'est automatiquement, on nous appelle au téléphone et on est là pour aider chacun dans leurs difficultés. On est là pour la réception des plaintes également. Pour s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au service de transport adapté de Laval, donc avec la STL,
oui.
On est là pour...
Vous êtes un trait d'union, hein?
Oui, okay. Vraiment, on est là pour eux, pour la population lavalloise.
Est-ce qu'on fait alta.com? Est-ce que c'est facile pour vous joindre?
Oui,
par
Alta, on le trouve automatiquement sur Google, donc...
ALTA.
ALTA, oui,
on
est le premier lien qui sort.
Formidable.
On a tout notre site Internet qui peut avoir tous nos services qui y sont. Et par téléphone, on a notre soutien clientèle qui est du lundi au vendredi. Donc, de 9h à 16h30, on est là toujours pour nos usagers.
Eh bien, merci beaucoup.
Le plaisir était pour moi.
Oui.
De pouvoir parler de notre organisme, pouvoir que les gens nous connaissent.
Oui. Et on vous réentendra sur les ondes.
D'accord.
Avec
plaisir.
Oui. Allez, au revoir. C'était Mara Audet Leblanc, directrice de l'association Lavalloise pour le transport adapté, autrement dit ALTA, ALTA. National, maintenant, le gouvernement du Canada lance un appel de propositions visant à favoriser l'inclusion sociale des Canadiens handicapés. Le gouvernement du Canada travaille pour offrir aux Canadiens handicapés une plus grande accessibilité et de meilleures possibilités dans leur collectivité et dans leur milieu de travail. Et à cette fin, la ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Quattro, a invité aujourd'hui les organismes nationaux sans but lucratif qui se penche sur les questions touchant les personnes handicapées. Quand je dis aujourd'hui, c'était le 22 septembre dernier, mais c'est encore vrai et bon jusqu'au 3 novembre prochain. Donc, elle a invité aujourd'hui les organismes nationaux sans but lucratif qui se penchent sur les questions touchant les personnes handicapées à présenter une demande de financement dans le cadre de l'appel de proposition pour la composante « Personnes handicapées » du programme de partenariat pour le développement social. L'acronyme PPDS, trait d'union, PH. Dans le cadre de ce processus concurrentiel, les organismes nationaux admissibles œuvrant auprès des personnes handicapées auront 6 semaines, autrement dit jusqu'au 3 novembre 2016, pour présenter une demande de financement pour des projets novateurs visant à cibler, à élaborer et à mettre à l'essai des pratiques et des outils prometteurs qui favorisent l'inclusion sociale des personnes handicapées. Ces pratiques et ces outils peuvent être nouveaux ou prendre appui sur des programmes et des services existants. Alors, comment on fait? Eh bien, on se rend le plus simplement du monde sur la page de l'acronyme, autrement dit PPDS, trait d'union PH. PPDS, trait d'union DH, et tout cela se retrouvera sur notre site. Si vous avez entendu un petit pop, c'est parce que j'ai simplement surligné l'adresse de ce site web pour être sûr qu'il apparaisse bien sur notre page. Vous savez comment on y va, hein, sur Canalem, canalem.vusevoix.com. Et puis ça, permettez que je prenne les dernières minutes qui nous restent pour vous en parler parce que je trouve ça tellement extraordinaire. Afin de souligner la Journée mondiale des sourds qui se tient aujourd'hui, la presse s'est rendue à Toronto pour témoigner d'une initiative qui fait énormément jaser. En fait, je pense que ce n'est pas aujourd'hui, c'était en fin de semaine. Mais j'ai trouvé l'article en fin de semaine dans La Presse Plus, écrit par Samuel Larochelle. Les serveurs dans ce restaurant n'y prononcent pas un mot. Les clients utilisent leurs bras, leurs mains et leurs 10 doigts pour passer une commande. Et en retrait, il y a le propriétaire qui s'appelle Anjan Manikumar qui observe la scène avec un éclat de fierté dans le regard. Grâce à lui, la ville Rennes est dotée du premier restaurant canadien employant une majorité d'employés sourds. Il y a quelques années, alors qu'il était gérant d'un Boston Pizza, l'entrepreneur canadien d'origine indienne a réalisé que l'un de ses clients était sourd. Celui-ci devait montrer du doigt tout ce qu'il désirait, mais sans pouvoir poser de questions. Nous n'avions pas une bonne interaction et je sentais qu'il n'obtenait pas le service qu'il méritait. J'ai donc décidé de m'initier au langage des signes avec des vidéos sur l'Internet, de nous dire cet homme, je vous rappelle son nom, M. Manikumar. Et ensuite, eh bien, il a tenté de signer avec lui la semaine suivante et les semaines d'après. Évidemment, il s'améliorait toujours. Alors ensuite, eh bien, écoutez, il a fait un appel d'offres. Il a reçu des centaines, il y a des centaines de serveurs sourds, qui sont venus. Évidemment, ils ne pouvaient pas faire d'entrevue téléphonique. Alors, ils sont venus au restaurant, ils se sont présentés. Et maintenant, on peut aller manger dans ce restaurant-là qui s'appelle Sings, ou Sings, S-I-G-N-S, pardon, c'est à Toronto. C'est une expérience qui exige une bonne dose de détermination, mais comme il dit, il n'a jamais lâché prise. C'est au-delà de 13 000 CV qu'il a reçus de partout sur la planète. C'est incroyable. Alors, Sings chez Toronto. Voilà ce qui met un terme à l'émission Les Paractualités ce matin. Merci beaucoup à M. Tessier de l'autre côté de la vitre, à Laure Janson qui m'épaule à la recherche et à vous d'être là. Rendez-vous demain matin à 11h30. Bonne journée.